Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion. Des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute d'Antidote pour cette nouvelle saison. Eh bien, Antidote a toujours le même objectif, vous donner, chers auditeurs et auditrices, des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un texte ou d'un ouvrage. Toujours le même format, des chroniques de 10-15 minutes à raison d'une chronique par mois. Et comme l'année dernière, ceux et celles qui le souhaitent pourront venir approfondir leurs réflexions et leurs connaissances du texte en venant participer aux rencontres Antidote qui se déroulent un dimanche par mois à 18h au café associatif L'Encrier, au numéro 1 de l'avenue Monestier à Flourac. Alors pour approfondir le texte que je vais vous proposer aujourd'hui, nous retrouverons le dimanche 16 octobre à 18h. Alors, quel est le texte que je vous propose justement aujourd'hui ? Ben, il a été écrit en 1938 et son auteur est connu de tous. Au moins de nom. Jean Giono. Alors Giono, il est bien sûr connu pour ses romans, Regain, Que ma joie demeure ou encore Le hussard sur le toit, mais c'était un écrivain très prolixe et il a aussi écrit de nombreux textes courts, des nouvelles ou encore des articles. Et le texte dont je vais vous parler fait partie de cette seconde catégorie et prend la forme d'une lettre. Son titre, Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. Il me faut le dire ici pour commencer, ce texte est d'une grande modernité. Tout est dit dans ce texte de la condition paysanne passée, présente en 1938, et à venir, celle que nous connaissons aujourd'hui. Et sa lecture vaut et même surpasse un grand nombre d'ouvrages que vous pourriez lire sur l'évolution du monde agricole et paysan, et notamment par le style. Nous sommes donc en 1938. Les bruits de bottes résonnent dans toute l'Europe et bien sûr en France. 20 ans après la fin de la grande boucherie de la Première Guerre mondiale, chacun se prépare à repartir en guerre. Et Giono exhorte les paysans à se prononcer contre la guerre. Il leur dit que cette guerre ne les concerne pas et qu'il faut au contraire qu'ils se révoltent contre les gouvernants qui veulent les envoyer à la guerre. Et il s'adresse à la fin de l'ouvrage, à la fin de cette lettre, aux paysannes. Je cite « Vous qui ne savez pas écrire, vous pouvez écrire la phrase la plus puissante et la plus noble de tous les temps. Les paysannes sous-signées s'engagent en cas de guerre à détruire le stock de blé qui sera en leur possession et à ne plus cultiver la terre que pour leur propre nourriture. » Non pas par égoïsme. Giono nous présente même le don comme une valeur paysanne. Il nous dit le don est un acte de paix. Mais pour ne pas obéir à l'État, pour ne pas se mettre sous sa domination. Car si l'artisanat a depuis un siècle déjà à cette époque été en grande partie sacrifié à l'industrie, si les artisans se sont fait ouvriers, les paysans, eux, ont plus longtemps résisté au rouleau compresseur du capitalisme ici ou du communisme ailleurs. Les paysans, avant la Première Guerre mondiale, étaient presque tous des paysans. Et c'est en les envoyant à la guerre, en 1914, en première ligne, que le capitalisme ici, et le communisme ailleurs, a commencé à ébranler l'édifice paysan. Alors Giono leur dit, là, en 1938, « N'y allez pas, refusez de la faire, et si vous y allez, que vos femmes, les paysannes, refusent de financer cette guerre en vendant leur blé, refusent de donner leur temps et leur travail, à un État qui n'a pour objectif que de les supprimer. » La véritable révolte des paysans passe pour Giono par le refus d'obéir à un État qui n'est, je cite, « qu'une construction de règles qui crée artificiellement la permission de vivre et donne à certains hommes la permission d'en disposer. » Toute cette lettre consiste à dire aux paysans que ce sont eux qui détiennent la vraie richesse, celle qui permet de se nourrir et de nourrir sa famille, et qu'ils ne doivent pas se laisser berner par la fausse richesse, celle que procure la monnaie et qui ne fait que les attacher, les lier à un État qui a besoin d'eux. La monnaie, nous dit Giono, donne à l'État la force des droits sur votre vie. Mais c'est vous qui donnez la force à la monnaie en acceptant de vous en servir. Si Giono s'adresse en 1938 aux paysans, c'est qu'ils sont les derniers à encore avoir conservé un peu de liberté face à l'État. Les artisans, qui étaient des sortes de paysans, ont été transformés en ouvriers et ils y ont perdu leur liberté. Et Giono exhorte les paysans à rester paysans, à refuser de se faire enrôler à leur tour dans un système étatique, quel que soit par ailleurs son régime. Car, nous dit-il, les deux systèmes sociaux modernes, le capitalisme et le communisme, on est en 1938, sont pareillement des systèmes de démesure. Ils détruisent tous deux la propriété paysanne. Le paysan ne peut en accepter ni l'un ni l'autre, sans devenir d'un côté un capitaliste et de l'autre un ouvrier. Dans les deux cas, il cesse ainsi d'être un paysan. Et pour rester paysan, celui-ci a besoin d'un rapport direct avec la terre. Si, entre la terre et le corps, on place l'argent, le paysan devient capitaliste. Si, entre la terre et le corps, on place la propriété d'un autre, la propriété collective si vous voulez, le paysan perd ses qualités paysannes et devient un ouvrier. Dans les deux cas, le paysan est détruit. Pour rester le paysan, il est deux conditions. Refuser la démesure et son pendant l'industrialisation de son travail. Le paysan a besoin d'outils. Et l'artisan, avant de devenir ouvrier, était le complément indispensable du paysan. Mais il n'a pas besoin de machines. La machine industrielle ligote le paysan au système. Elle nécessite d'obtenir de la monnaie, donc de vendre, de faire du profit, et elle oblige à toujours plus de démesure. Giono, en 1938, voyait très bien venir la disparition des paysans que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est parce qu'il voyait venir cette disparition après celle des artisans qu'il leur a écrit cette magnifique lettre. On se tromperait en ne voyant dans cette lettre qu'une sorte d'apologie romantique de la paysannerie, du retour à la terre. On se tromperait en n'y voyant aussi qu'une ode écologiste, qu'un plaidoyer pour la nature. Mais on se tromperait aussi en n'y voyant qu'un vibrant appel à la mesure, à la simplicité ou à la pauvreté. Tout ceci est en effet dans cette lettre, mais cette lettre est avant tout un puissant plaidoyer contre l'État. Et c'est en cela que réside sa force. En 1938, les paysans constituaient encore en France, comme dans de nombreux pays, une part très importante de la population. Et pour Giono, il suffirait que cette part-là de la population refuse de faire fonctionner le système pour que celui-ci s'effondre. Je cite « Si les paysans de toutes les nations se réunissaient, ils installeraient d'un seul coup sur terre le commandement de leur civilisation et les petits gouvernements ridicules, ceux qui maintenant sont les maîtres de tout, finiraient leurs jours en bloc, parlement, ministres et chefs d'État, réunis dans les cellules capitonnées de grands asiles d'aliénés. » Il n'allait pas le dos de la fourchette. On sait malheureusement qu'il n'en a rien été et que les paysans ont succombé à leur tour au mirage capitaliste ou communiste, qu'ils ont été broyés par la machine, ici comme sur l'ensemble de la planète. Ils sont devenus agriculteurs, puis exploitants agricoles. Ils sont devenus des rouages du système. Ce qui a disparu avec eux est incommensurable. Des savoir-faire, certes, mais plus encore que ça encore, un art de vivre, une civilisation, le lien entre les corps et la terre, et au-delà même, la simple idée de liberté. Mais peut-être n'est-il pas trop tard. Peut-être est-il encore possible de retrouver cela. Alors, lisons et relisons cette lettre de Giono qui n'aurait certainement pas renié cette phrase de John Holloway. La révolution ne consiste pas à détruire le capitalisme, mais à refuser de le fabriquer. Le paysan, nous dit Giono, doit rester paysan. Il n'a rien à gagner à devenir capitaliste. Il a tout à y perdre. Alors je voudrais maintenant terminer cette chronique par quelques extraits. C'est difficile de choisir des extraits dans cette lettre tellement tout est à prendre, hein, rien n'est à jeter. Il faut vraiment la lire dans sa globalité. Mais ces extraits vous donneront peut-être l'envie d'aller plus loin dans cette lecture, de découvrir ou de redécouvrir la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix de Giono. Et je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin aussi dans cette lecture, nous pouvons nous retrouver à l'Encrier le dimanche 16 octobre à 18h, pour faire un travail de lecture collective autour de ce texte. Je vous dis donc au mois prochain. Le premier extrait que je vais vous lire est un petit bout du chapitre « La paix par la violence ». Je voudrais que vous soyez les premiers à accomplir une révolution d'hommes. Je voudrais qu'après elle, le mot paysan signifie honneur, que par la suite on ne puisse plus perdre confiance dans l'homme grâce à vous, que pour la première fois on voit, engagés contre tous les régimes actuels, la noblesse et l'honneur vaincre la lâcheté générale. C'est bien ce que vous projetez de faire, je le sais. Et j'entends depuis quelque temps germer en vous des graines qui vont bientôt éclater et vous grandir comme des arbres au-dessus des autres hommes. Mais vous voulez le faire par la violence. Je sais que vous avez toutes les excuses de penser à la violence. Elle ne fait pas partie de votre nature, on vous l'a apprise. Et c'est logique, au fond, que vous vous mettiez soudain à vous en servir contre ceux qui vous ont obligé à la prendre. Ce que j'en dis n'est pas pour les protéger. Je les déteste plus que vous. C'est pour que leur défaite soit éternelle. C'est pour que votre victoire soit éternelle, qu'elle abolisse totalement les temps présents et qu'on ne puisse plus penser à y revenir. Et justement, l'autre extrait que je voulais vous lire, c'est le chapitre d'ailleurs. Je crois que c'est la totalité, non, un morceau du chapitre qui s'appelle « Les temps présents ». Vous savez ce que je veux dire par temps présent ? Il y a environ 50 ans qu'on a commencé à se servir de la technique industrielle. C'était le début de la passion géante pour l'argent. Jusqu'à ce moment-là, le seul moyen de gagner de l'argent rapidement, et beaucoup, était la banque. La technique industrielle était le nouveau moyen, ou l'amélioration du premier, qui permettait de constituer encore plus rapidement, entre les mains d'un homme, de plus énormes capitaux. Le profit, qui auparavant ne pouvait pas s'accorder avec le travail, mais seulement avec le jeu, on lui donnait ainsi une apparence d'accord avec le travail, et du même coup, on légitimait la soif du profit. En réalité, on transformait tout simplement le travail en jeu d'argent. La différence entre le travail et le jeu, c'est qu'on peut travailler seul et travailler pour quelqu'un. On ne peut pas jouer seul, on joue toujours contre quelqu'un. Pour que le jeu industriel fonctionne avec le plus d'aisance et de profit, il lui fallait de nombreux adversaires, de nombreux clients. Il ne pouvait pas jouer dans les campagnes où il y a vraiment à travailler, où l'on n'a pas le temps de jouer, où il aurait manqué d'adversaires. Le jeu industriel s'installa donc dans les villes. Il en transforma la vie, suivant les règles de tous les jeux. Il offrait, montrait, criait publiquement l'annonce de 10% de bonheur extraordinaire entièrement nouveau, et il les apportait, carte sur table. C'était vrai. Il apportait d'autre part 90% de malheurs extraordinaires et également nouveaux, sur lesquels il était inutile d'attirer l'attention et qui étaient le résultat des profits industriels. De tous les côtés, les hommes s'approchèrent des nouveaux bancs. Tout était arrangé de telle façon que les grands enrichissements de l'homme ne pouvaient pas lui donner des moyens de contrôle. Il ne pouvait plus se servir ni d'esprit critique ni de conscience. Il lui semblait même que son honneur était de jouer plein jeu. Ces bonheurs nouveaux, ainsi offerts, travailler à les gagner, c'était se civiliser. C'était donner à la civilisation de l'homme cette imminence sur la nature, si consolante au fond de la solitude. L'extraordinaire de ces bonheurs lui donnait un nouveau sens de jouissance. L'orgueil de se rapprocher de Dieu. Le jeu, si parfois il en sentait la ruse ou le passage furtif de quelques mouvements de triche, était si bien caché sous le travail qu'il lui était impossible de croire ses sens, de croire ses yeux, ses oreilles, son toucher, de croire ce que brutalement il voyait. Il entendait, il touchait ainsi, quand il avait tant d'intérêt à ne rien voir d'autre que sa passion pour un nouvel arbre de science. Les valeurs spirituelles accumulèrent des mots dans tous les sens pour que le sens des mots soit caché. Ainsi, à la fin des comptes, quand certains hommes faisaient des comptes dangereux, le mot « travail », chargé d'une fausse noblesse, ne signifiant plus rien de la chose qu'il désigne, faisait accepter les meurtres même du jeu. Pour ceux qui, de l'autre côté du banc, accumulaient en leurs mains de profits considérables d'argent, ils n'étaient pas en dehors des règles du jeu. Ils ne faisaient pas une si bonne affaire. Ils étaient obligés de vivre avec les 90% des malheurs nouveaux. L'étonnement de ne pouvoir acheter le bonheur avec ces énormes profits les engageait dans la poursuite de profits toujours supérieurs. Le déchirant débat des hommes accrochés désespérément à cet espoir faisait grandir avec une extrême rapidité les progrès de la technique industrielle. Mais la règle du jeu ne pouvait pas être changée. Elle donnait toujours la même proportion de bonheur et de malheur. Ce n'est pas en attelant 20 chevaux à une charrue qu'on charruera mieux. Si on veut changer le résultat, il faut en changer tous les facteurs, c'est-à-dire transformer, c'est-à-dire porter dans une autre forme. Il n'est plus possible de changer la forme de la société industrielle. S'enrichir véritablement, ce que je vous disais au début de cette lettre, ce que je vous disais être ma grande passion, est difficile pour l'homme et demande le sacrifice total de sa vie. Le profit est un moyen extrêmement facile de croire qu'on s'enrichit. On se donne l'illusion de posséder une chose rare. Cette séduction du facile attira vers les grandes villes, vers les lieux de banques industrielles, la population artisanale des petites villes de tous les pays. Il ne reste plus sur l'étendue des terres que les hommes habitués au difficile. Le reste s'étant aggloméré dans des proportions considérables sur des petits espaces de terre, tout restreint, et qu'ils envisageaient même dans leurs moments les plus grands, de plus grands délires d'augmenter en hauteur, en épaisseur, étant si violemment agglomérés sur les lieux de leurs désirs qu'ils ne pouvaient même plus imaginer d'élargir leur lieu de résidence. Ils ne pouvaient plus penser qu'à s'entasser les uns et les autres sur les fondations mêmes de l'industrie. Ainsi, l'emploi de la technique industrielle à la recherche du profit modifia complètement le visage de la terre. Ces grandes compagnies d'hommes qui occupaient paisiblement l'étendue du sol, ayant combiné leurs habitats entre les habitudes de la pluie, du vent, du soleil, du torrent, du fleuve, de la neige et de la différence de fécondité de la terre, ces fourmilières d'hommes répandues également comme de la semence sur tout le rond du globe, employés à ce travail que largement, en gros, on peut appeler paysans, c'est-à-dire de collaboration avec la nature, et l'artisanat est un travail paysan, ces foules, uniformément répandues sous les ombrages de leurs arbres, s'empressèrent vers les villes, vers de l'artifice, abandonnant le naturel, avides de facilité et de profit. Les chemins noirs du monde asséchaient les champs, de grandes pièces de terre se vidaient, et, comme d'un bassin débondé d'où l'eau coule, on voit peu à peu émerger la boue et les mousses mortes, toute cette civilisation végétale de la vigne et du blé qui couvrait la terre de notre monde s'éclaircit, s'amincit, laissa émerger au milieu d'elle de grands îlots déserts d'herbes sauvages et d'hommes solitaires. Si je fais une différence entre le paysan et le reste de l'humanité, c'est qu'à ce moment-là, le départ s'est fait entre ceux qui voulaient vivre naturellement et ceux qui désiraient une vie artificielle. Les villes s'engraissaient. Elles se gonflaient à vue d'œil de rues et de boulevards nouveaux. Des banlieues fumantes de plâtras déchiraient de plus en plus au loin autour d'elles avec le hérissement de leur échafaudage de maçons, les futaies et les bosquets. Mais le torrent des hommes qui se ruaient vers la proximité des usines et des manufactures ne pouvait même plus être contenu dans l'élargissement des agglomérations. On éleva les maisons d'étage en étage, superposant des couches d'humanité et des couches d'humanité, les unes au-dessus des autres, mesurant l'espace qu'il fallait à chacun pour se coucher, pour manger, délimitant entre des murs des droits de vivre de 3 pièces, de 4 pièces, d'une pièce, de petits casiers dans lesquels, moyennant finance, on avait le droit de se caser, soi et sa famille, et de vivre entre ces 4 murs, toute sa vie, avec naturellement des gestes modifiés, pas trop larges, et de vivre là toute sa vie, et de faire l'amour avec peu à peu une autre nature, un autre sens de la liberté, un autre sens de la grandeur, un autre sens de la vie que l'ancien sens de toutes ces choses. Ainsi, les hommes entraînés vers les 10% de bonheur extraordinaire promis par la technique industrielle portaient le poids des 90% des malheurs nouveaux. Ils ne leur paraissaient pas lourds tout de suite. Les 10% de bonheur étaient enivrants. Ils étaient à la condition humaine comme de la morphine à l'enragé. Et les 90% de malheur n'étaient qu'extraordinairement simples, comme toutes les choses naturelles. On ne pouvait les sentir qu'à la longue. C'était le signe de l'éternité de la prison. Ceux qui entraient ne pouvaient plus sortir. Au moment où ils étaient écrasés par le poids des malheurs, ils n'avaient plus de corps naturel, mais seulement une fragile charpente de nerfs excitée par la morphine des bonheurs industriels. Plus de chair, plus de sang, plus rien de ce qui constitue un homme, mais qui, n'ayant plus été nourri de nourriture véritable, s'était lentement pourri, puis desséché en poussière, puis était devenu la pâture du vent. À la conscience de leur propre grandeur, ils avaient substitué en eux-mêmes la conscience de la grandeur des machines. Je vais vous lire quelques petits extraits plus courts, un notamment sur le chapitre de l'argent. Sans propriété, le paysan n'a plus aucune qualité paysanne. Il ne peut pas vivre sans propriété. C'est son premier outil. Je répète qu'il ne travaille pas pour un salaire. Il travaille pour vivre directement de ce travail, sans intermédiaire, c'est-à-dire sans passer par le stade monnaie. Il fait des pommes de terre. Il attend le temps qu'il faut, il arrache ses pommes de terre, il les nettoie, il les coupe en morceaux, il les met dans la poêle où est en train de frire l'huile de ses oliviers ou de ses noix, et il mange ses pommes de terre. Son travail va directement de la terre à sa bouche. C'est pourquoi il est normalement attaché à la terre comme à une partie de son corps. C'est sa propriété, elle est à lui. Dès qu'on change quelque chose dans cette liaison directe terre-corps, on détruit le paysan. Vous auriez pu m'arrêter, vous autres les paysans, dans cette description que je vous ai faite du passage de la pomme de terre à votre corps. Il y avait là-dedans un instrument qui ne provenait pas du travail paysan, c'était la poêle dans laquelle l'huile était en train de frire. Et, si nous réfléchissons, il y avait la bouteille qui contenait l'huile. Et voyez comme ça grandit. Il y a la faux avec laquelle on fauche le blé, et la charrue qui déchire la terre, et le harnais de cuir qui attelle le cheval à la charrue. Ceux qui font tous ces objets, exprimez le monde à l'égal de vous-même. Ils étaient aussi naturels que vous, aussi nobles que vous, aussi indispensables que vous. Quand le travail était leur joie de vivre, sans qu'on ait besoin de le marquer à tout moment dans leur charte syndicale, comme si écrire les mots en grosses lettres pouvait retenir la chose qui les fuit. On leur a enlevé la propriété de leur travail, et ce n'est pas en leur donnant à tous collectivement la propriété de l'usine qu'on la leur rendra, en même temps que la joie de vivre. Ce sera une propriété artificielle. Ce qu'il leur faut, c'est une propriété naturelle. Il faut qu'ils soient les maîtres de leur travail. Et c'est également le sens de votre révolte. Ces grandeurs où vous allez atteindre, il faut y hausser vos ennemis même, ces paysans avilis, ces artisans dégénérés. Il vous est déjà impossible de continuer à penser à la violence, puisque vous devez reconstruire le monde pour eux, autant que pour vous. La propriété du paysan est entièrement naturelle. Elle est soumise à ses besoins, elle est donc soumise à sa mesure. La chose la plus importante est cette mesure. Dès que cette propriété se démesure, elle perd ses qualités naturelles, elle perd ses qualités paysannes. Seule sa partie mesurable aux besoins de son propriétaire s'adapte à ce propriétaire. Toute la partie qui est en dehors de cette mesure ne peut plus que s'adapter au social et n'est plus paysanne. Les deux grands systèmes sociaux modernes, le capitalisme et le communisme, sont des systèmes de démesure. Ils détruisent tous les deux la propriété paysanne. Le paysan ne peut accepter ni l'un ni l'autre sans devenir d'un côté un capitaliste et de l'autre côté un ouvrier. Dans les deux cas, il cesse d'être un paysan. Allez, j'ai encore deux, trois petits extraits à vous lire. Et là, c'est dans le chapitre sur la... qui s'appelle « La civilisation paysanne s'est faite sans argent ». Vous voyez quelle puissance vous avez sur moi, sur tous ceux qui ne sont pas paysans, sur le sort du monde. Le sort du monde a toujours été entre vos mains, rendez-vous compte. Il n'est dans les mains de personne d'autre que vous. Ceux qui le prétendent mentent. Et ils vous cachent la vérité parce qu'ils ont peur de vous. Le monde ne vit que parce que vous lui donnez la permission de vivre. le faux monde terrible qui vit les temps modernes dans un inimaginable massacre de tous les beaux espoirs, ne vit que parce que vous lui donnez permission de vivre. Il vous oblige à lui donner la permission de vivre. L'arme avec laquelle il vous réduit en esclavage, c'est la monnaie. Plus vous avez de sa monnaie de papier dans vos armoires, plus vous êtes des esclaves du temps moderne, moins vous êtes paysans. La matière physique de la paysannerie est sur le point de disparaître pour devenir autre chose. Elle est malade du capitalisme. Le but du paysan n'est plus de vivre, c'est de constituer un capital. Il croit que vivre, c'est constituer un capital. Il croit que le capital lui donnera une ampleur de vie à laquelle il ne peut pas atteindre avec la vie seule. Vous me dites qu'il ne trouve plus à manger. C'est qu'il ne cherche plus à manger, il cherche à vendre. La preuve de son erreur, c'est qu'il ne trouve plus à vendre. La preuve de l'erreur de vendre en général est que le travail de l'homme appliqué logiquement au désir de vendre détruit de lui-même la possibilité de vendre. C'est un nœud coulant. L'homme qui n'accomplit plus les gestes de la vie ne doit pas s'étonner si la vie se retire de lui. Vous avez planté le clou dans la poutre, vous avez attaché la corde, vous l'avez nouée à votre cou, vous avez à moitié culbuté l'escabeau et vous criez « ça m'étrangle ». De quoi vous étonnez-vous? Pour vivre, on s'y prend autrement. Que désirez-vous? Les joies de l'au-delà de l'argent? Le paradis que la monnaie vous promet? Ou bien la vie d'ici-bas? Il faut choisir et ne pas réclamer l'un quand on poursuit l'autre. La raison de vivre de l'homme, c'est vivre. Le paysan qui fait les gestes de vivre vit. Et je termine par un tout petit extrait, enfin une petite citation plus exactement cette fois, puisqu'on est sur le chapitre de la guerre et qu'on a un peu reproché à Giono son pacifisme par moment. Voilà ce qu'il dit. Il ne suffit pas d'être pacifiste, même si c'est du fond du cœur et dans une farouche sincérité. Il faut que ce pacifisme soit la philosophie directrice de tous les actes de votre vie. Toute autre conduite n'est que méprisable, lâcheté. Eh bien, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre, ce petit ouvrage d'une centaine de pages, qui est vraiment extrêmement poignant et extrêmement moderne. Au revoir et à bientôt. Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion. Des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer.